you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Sophie, Catherine Gannet, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Bruno Gagnère, réalisation Lise Combe. Autour de moi, Sarah Hilermeyer, Ingrid Lukegaard et Frédéric Bonnet. À notre affiche Musée Pouchkine, 500 ans de dessin de maître. C'est à la Fondation Custodia. Ellsworth Kelly, fenêtre, c'est au centre Pompidou. Théo Hernandez, éclater les apparences, c'est à la Villa Vassiliev. Il y aura un coup de cœur, signé Sarah Hilermeyer ce soir pour l'exposition de Rosemary Castoro à la galerie Tadeusz Ropak. Nous ferons gagner, grâce au jeu de la dispute, des invitations pour le film d'animation Funan de Denis Do, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et nous débutons cette dispute en nous rendant à la Fondation Custodia, 121 rue de Lille, à Paris. Elle a été fondée en 1947 par un couple, Fritz et Tho Lucht. Cette fondation abrite dans l'hôtel Turgot, hôtel particulier du 18e, l'une des plus importantes collections privées de dessins anciens, d'estampes, de lettres d'artistes. Ça, c'est pour la Fondation Custodia. Le musée Pouchkine, petit rappel, a lui été inauguré au début du 20e siècle et sa collection d'art graphique comporte aujourd'hui, on estime, à 350 000 gravures et 27 000 dessins. C'est donc une petite dépossession du musée Pouchkine qui a fait le voyage pour la Fondation Custodia, mais on va voir laquelle. C'est une des premières grandes rétrospectives d'œuvres d'art graphique du musée Pouchkine qui est présentée en France. Près de 200 œuvres tout de même, pour voyager dans le temps et dans l'espace du 15e au 20e siècle, de l'Atlantique à l'Oural, aurait dit l'autre. Gert Luijgen et Vitalou Michin sont les commissaires de cette exposition. On pourrait tous chanter ensemble, vous parler ensemble, mais on comprendrait pas grand-chose. Donc on va le faire par ordre. On fait un premier tour de table. Frédéric Bonnet, qu'on va suivre dans la Fondation Custodia. J'ai donné quelques éléments factuels, mais alors, cette exposition et le catalogue monumental qui l'accompagne montrent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment est-ce que le visiteur appréhende cette exposition et ce lieu, Frédéric Bonnet?
Le visiteur, je ne sais pas. Moi, je peux vous parler de
vous,
moi.
Le visiteur après, que vous êtes.
Non, après, je peux aussi vous parler de comment on voit le public très enthousiaste dans cette exposition. Public nombreux, il est vrai, mais bon, l'affiche est assez exceptionnelle. Le musée Pouchkine, c'est déjà un nom qui claque en tant que tel. La Fondation Custodia est peut-être moins connue, mais j'imagine qu'il y a les campagnes de communication qu'il faut pour faire claquer justement le nom du musée Pouchkine. Et puis le public lâché tel des fauves dans les salles d'exposition, évidemment, se réjouit, notamment à l'étage des dessins anciens, puisque l'exposition est scindée en deux niveaux. Un premier niveau qui a globalement du 15e au 19e, et puis au sous-sol, dans les salles un peu plus ingrates, les avant-gardes et les modernes. Moi, je suis un petit peu Oui, je veux dire déçu. Pas par le contenu, parce qu'évidemment, il y a de quoi passer un très bon moment, il y a des très belles feuilles, mais je trouve que c'est une exposition qui manque singulièrement d'audace. Quand on s'approprie un tel fond de dessin, on se dit que on aurait peut-être pu essayer d'engager une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une collection de dessins de cette ampleur-là, comment elle a été constituée, quel rapprochement on peut en faire. Là, moi, ce que je trouve être le principal écueil, alors qui pour certains pourra peut-être être une qualité, c'est l'accrochage quasi strictement chronologique, et je me demande si c'est pas millimétré entre les cadres, si l'écart est pas millimétré entre les cadres. Donc on a cette ligne qui court d'une salle à l'autre, 200 dessins, c'est beaucoup, et on n'a pas d'espace de respiration, y a un moment, je vais pas dire que tout finit par se confondre, parce que c'est pas vrai, faudrait être de mauvaise foi, mais...
C'est pas votre genre.
Pas du tout.
Non, c'est vrai.
Non, c'est vrai.
Ça, je le dis.
Mais c'est vrai que du coup, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lassant. On a un peu l'impression d'être un mouton de panurge qui suivait le chemin tracé. Et oui, j'aurais aimé aussi que, au-delà de l'intérêt manifeste des œuvres exposées, qu'on me parle un petit peu de la constitution de la collection, parce qu'elle a été faite en plusieurs épisodes, qu'on nous parle un peu de l'intérêt des conservateurs, parce que tel conservateur a forcément pas le même œil que tel autre. Ça aurait été intéressant de voir, face à un fond d'une telle ampleur, savoir un petit peu comment ça a été constitué, et puis donc peut-être de tenter des rapprochements qui soient pas seulement strictement chronologiques.
Alors il y a cette dimension là, Frédéric Bonnet, mais il y a aussi le fait qu'il s'agit d'une ponction dans une très vaste collection. Il faudrait aussi savoir pourquoi on a choisi ces 200 là et pas 200 autres. Alors on comprend bien que ce qu'il y a quand même un nombre de chefs-d'œuvre, enfin de mettre assez impressionnant, mais je relance vers Ingrid Lukegad cette façon dont vous avez eu d'appréhender vous l'exposition.
C'est effectivement une collection de chefs-d'œuvre d'abord, qui montre une espèce de best-of de l'art surtout européen. Ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut noter. C'est une exposition qui est censée regrouper les maîtres européens et ce qui a pu se passer en Russie à la même époque, mais qui le fait peu. Et c'est vrai qu'on aurait pu souhaiter que sa présentation en France aille piocher du côté justement de ce qui se passait en Russie à la même époque. Mmh. C'est pas le cas. Ce qui est intéressant après, dans un second moment, ça serait peut-être d'y voir un reflet du goût de ces riches collectionneurs de l'époque en Russie, qui effectivement, dans un moment comme ça de lumière, surtout pour la partie moderne, se tournaient comme un marqueur de statut et de goût, surtout vers des artistes européens. Il y a une anecdote assez intéressante, qui est que la collection du musée Pushkin s'est fondée sur une nationalisation des collections privées en 1918. Et donc, je pense qu'on voit très bien, justement, une espèce de pénétration du goût européen par certaines classes sociales. Et je pense que l'intérêt qu'on peut trouver à cette collection, ça serait un reflet, comme ça, d'une grande bourgeoisie qui, en 1918, se voit, justement, un peu dépassée par le cours des événements. Sauf que, bon, ce parti pris-là n'est pas non plus vraiment mis en évidence, puisque dans la partie contemporaine, qu'ils appellent eux modernes, on ne voit pas ce turnover se produire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir plus d'artistes russes dans la seconde partie.
En tout cas, dans l'exposition, là encore, il faudrait se référer à ce qu'on peut voir au musée Pushkin, mais on parle effectivement de la Fondation Custodia, il y a quand même pas mal de Russes, on n'a donné aucun nom, mais ça commence forcément avec Dürer, ça va jusqu'à Kandinsky et d'autres encore, Chagall, et ça passe par Véronèse, Rubens, Friedrich, quand même un certain nombre assez impressionnant, Picasso, Matisse, beaucoup aussi pour ces deux-là, et bon, beaucoup d'autres noms encore, on reviendra certainement sur certaines des feuilles. Sarah Ehlermeyer, votre sentiment sur cette exposition à la Fondation Custodia?
Je serais peut-être un peu moins dure que mes collègues, puisque effectivement l'exposition, elle est assez sage dans son ambition, puisqu'il s'agit finalement de parcourir l'histoire de l'art européen de la fin du 15e jusqu'à jusqu'au milieu du 20e à travers 200 dessins environ du musée Pouchkine. Mais alors, toute exposition n'a pas forcément vocation à proposer un turn, une révolution hein, dans le regard. Et disons qu'à l'aune de ses ambitions, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Et puis comme par ailleurs, il me semble aussi qu'il y a quand même un certain nombre de découvertes artistiques, hein, parce que on voit ici les grands maîtres de l'histoire de l'art européen comme Durer, Le Bernin, Ingres et bien d'autres, ce qui n'est pas pour me déplaire en tout cas. Et puis on découvre aussi d'autres artistes comme par exemple Pavel Filonov, hein, qui est un artiste russe du début du XXe siècle et dont on voit ici des têtes étonnantes, quasi psychédéliques, hein, qui se décomposent et se démultiplient jusqu'à atteindre l'état de la cellule. Mais pour revenir sur ce que disait Ingrid à propos de l'histoire du goût, je trouve que justement ce qui est intéressant dans cette exposition, quelque part, c'est qu'on y voit une histoire du goût et des commanditaires, c'est-à-dire que très clairement, au XVe et XVIe siècle, on voit que les artistes représentent essentiellement des scènes religieuses, historiques ou mythologiques, ce qui correspond en fait au goût de l'aristocratie humaniste et aux religieux qui sont les principaux commanditaires à l'époque. Et puis au XVIIe siècle, les scènes de genre et de paysage des écoles du Nord, ce qui correspond à l'émergence en fait d'une classe bourgeoise qui devient commanditaire et qui n'a pas forcément l'érudition nécessaire pour comprendre les grandes compositions allégoriques et d'histoire. Et puis il y a le XVIIIe siècle avec le style rococo français et les scènes galantes. Et là, ça correspond très clairement à un nouveau mode de vie aristocratique qui est basé sur l'élégance, le jeu, les divertissements. Et arrivent les 19e et 20e siècles, où là, on voit qu'émerge en fait une nouvelle conception, je dirais, de l'artiste, qui va de pair avec l'exaltation de la notion de génie, et qui, pour laquelle donc l'artiste ne va pas se conformer à des normes collectives, mais en fait affirmer au contraire sa singularité. Et ce qui va de pair en fait avec l'émergence aussi d'une nouvelle figure, qui est celle du marchand d'art, et qui va justement chercher l'originalité et la singularité pour se démarquer sur le marché.
Puisqu'on voit aussi dans cette exposition, moi je reprendrai plutôt, je serai dans l'équipe Hilaire Meyer ce soir sur le côté, alors certes sage, mais quand même assez passionnant. C'est vrai que c'est une sorte de catalogue qui nous est proposé avec, encore une fois, essentiellement, il y a peu d'œuvres peu d'artistes dont il y ait plusieurs œuvres. C'est quand même souvent une œuvre d'un tel, une œuvre d'un tel. Les quelques rares ensembles sont quand même assez modestes, mais j'imagine que c'est une volonté des commissaires d'exposition et sans doute aussi un accord avec le musée Pouchkine, parce qu'on n'allait pas déposséder ce musée de tous ces chefs-d'œuvre. Mais aussi, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la pratique du dessin ou de la gravure pour ces artistes-là, qui sont quand même le plus souvent peintres. Qu'est-ce que c'est le dessin pour Hubert Robert par rapport à Rubens? Qu'est-ce que c'est le dessin pour Matisse par rapport à Fernand Léger? Il y a quand même cette question-là. Alors, si on a les connaissances préalables, qu'on peut quand même étudier avec ces dessins, avec Bonnet.
Ah oui, mais on peut encore une fois, moi j'ai mes réserves sur le mode de présentation que je trouve un peu trop linéaire et scolaire de l'exposition. Après, j'ai passé de toute façon un bon moment et j'ai vu des choses assez admirables. Et en effet, si cette présentation linéaire et scolaire a un intérêt, c'est qu'elle permet tout de même de voir une évolution du médium sur une période qui est quand même assez considérable, puisque allant de la fin du 15e siècle, début 16e, jusqu'au début du 20e. Donc il y a quand même une amplitude assez considérable et qui voit que effectivement l'objet dessin évidemment se transforme, pas seulement d'une manière plastique, mais comme vous le disiez, l'usage se transforme aussi, parce que si on va avoir beaucoup de dessins dans les périodes les plus anciennes, qui sont la plupart des études préliminaires à des tableaux ou à des fresques ou à des compositions de grande ampleur, après il y a une singularisation progressive du dessin qui est tout à fait manifeste, particulièrement à partir de la fin du 19e siècle, où le dessin on voit prend une plus grande autonomie.
Et oui, c'est vraiment une pratique autonome pour certains artistes.
Je trouve qu'il y a un moment de bascule justement dans cette question-là, qui est assez manifeste avec les deux magnifiques dessins de Caspar David Friedrich, qui pour moi sont deux des œuvres les plus exceptionnelles de ce qu'il y a à voir dans cet accrochage, et notamment cette chose incroyable, ce cercueil au-dessus d'une tombe avant qu'on le mette en terre, abandonné là, il n'y a plus personne autour, il a été juste laissé là, et il est dominé par un arbre sur lequel sont accrochées des couronnes de feuilles telles qu'on en retrouve autour du cercueil, et aussi une ancre, donc peut-être que la personne décédée était un marin, je ne sais pas. Ce dessin est absolument stupéfiant.
Ingrid de Lukegan.
Bah alors moi je suis d'accord justement pour les dessins de Caspar David Friedrich, parce que ce qui me gênait beaucoup dans la première partie de l'exposition, c'est que le côté dessin préparatoire est quand même très mis en avant, puisqu'on a en bas toujours la comparaison avec le tableau tel qu'il sera dans sa version finie. Donc évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison et plutôt de regarder la reproduction du tableau plutôt que le dessin. Et effectivement, on a quand même un petit point comme ça de singularité ou de bascule avec des dessins de Caspar David Friedrich qui sont beaucoup plus humbles, qui sont des scènes de campagne sans forcément de figure humaine et qui sortent un peu justement de cet aspect tableau qu'on connaît tous par une reproduction de photos. Et donc par ces dessins, on rentre peut-être justement plus intimement dans la singularité de Caspar David Friedrich, loin d'un romantisme un peu ronflant.
Je vous laisse cet adjectif le concernant. Sarah Hilermeyer, quelques mots encore sur cette exposition.
Oui, mais pour rebondir sur ce que disait Frédéric, effectivement, ce qu'on voit à travers ce parcours, c'est finalement une évolution dans le statut du dessin, qui passe du statut d'esquisse en fait au statut d'œuvre d'art à part entière. Mmh. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est une variation dans la conception du dessin, avec une très grande variété de styles selon les époques et les mouvements. Et puis très clairement aussi une bascule avec la modernité artistique, où le dessin quelque part s'affranchit de sa valeur figurative, hein, et représentationnelle au profit d'une valeur davantage expressive qui peut l'amener à s'éloigner des apparences visuelles et à les déformer, comme on peut le voir par exemple avec Georges Gross dans l'exposition. Et puis autre chose qui me semble assez frappant dans l'exposition, c'est de voir qu'avec la modernité, la couleur prend sa revanche sur le dessin, auquel la couleur a été subordonnée pendant des siècles, hein, parce que comme on peut le voir dans les études du 16e et 17e, les lignes sont rehaussées par des lavis de couleur brune ou blanche. Et donc là, la couleur, elle devient parfois le principal élément de composition, voire le seul, comme par exemple avec Franz Marc, dont on voit de très beaux dessins d'animaux. Et puis, cette prééminence de la couleur, elle peut même amener jusqu'à l'abstraction. Abstraction dans lesquelles, eh bien, les traits, la ligne deviennent des éléments matériels et autonomes, au même titre que les taches de couleur. Et c'est ce qu'on voit notamment dans des très belles compositions de Kandinsky, où les taches de couleur, les lignes et les traits, eh bien, ont la même valeur que les uns et les autres, à savoir une valeur, je dirais, sensorielle et vibratoire.
Alors, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, il y a relativement peu d'artistes russes, pour autant, mais beaucoup que je ne connaissais pas. Est-ce que vous en avez remarqué un ou une, enfin un d'ailleurs, parce que une, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes dans cette exposition, mais ça c'est une autre histoire. Ingrid Lukegan, un nom qui vous vient
Non, je pense que c'est très bien de redécouvrir Kandinsky par le dessin, justement. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à avoir en tête l'exposition de Kandinsky au Centre Pompidou il y a quelques années, qui se concentrait surtout sur des grands tableaux parce qu'ils avaient le moyen de le faire. Et c'est une manière très belle de rentrer dans le concret de son œuvre et dans une intimité qu'on lui connaît pas forcément, quoi, et de voir un peu la pensée en acte qui se met en place justement par des compositions géométriques et de voir une pensée comme ça plastique s'affiner justement au fil des formes et voir la couleur arriver également dans ces compositions-là.
Bon, c'est pas le moins connu des Russes. Il y en a que vous connaissiez pas, vous, Frédéric Bonnet?
Moi, j'ai été assez stupéfait par un fusain de Victor Lebedev qui représente deux modèles féminins nus. C'est une pièce de 1927, hein, une feuille de 1927. Et oui, je suis resté assez arrêté un long moment parce que c'est figuratif, c'est très nettement figuratif. Alors ça pourrait même paraître un peu à la traîne justement de ce que font les avant-gardes du coin à la même période. Mais en même temps, il y a une sorte de construction et dissolution du motif en même temps par le biais du pastel. Le pastel évidemment aide à ça en s'appuyant sur la feuille. Et j'ai trouvé ce dessin très très beau.
Allez, un dernier nom, Sarah Hilermeyer.
Oui, bah comme je disais, j'ai parlé de Pavel Filonov, dont j'étais très heureuse de découvrir. Il y a un autre artiste russe, un symboliste russe qui s'appelle Mikhail Vroubel, qui est en fait un artiste symboliste et dont on voit ici des aquarelles qui représentent des paysages nocturnes et aquatiques et dans lesquels semblent se noyer des grandes figures allégoriques. J'ai trouvé ça assez surprenant. Et puis on voit aussi des artistes plus connus, comme par exemple Natalia Goncharova, avec un très beau paysage Donc les artistes russes ne manquent pas du tout dans la seconde partie de l'exposition. Ils apparaissent qu'effectivement à la fin du 19e, mais c'est précisé dans le catalogue, en fait les collections des artistes russes commencent au 17e et 18e siècle, avec essentiellement des représentations d'architecture. Et puis pour les périodes d'avant, c'était plutôt des enluminures religieuses.
Voilà quelques mots qu'on pouvait dire ce soir sur cette exposition du musée Pouchkine à Paris. 500 ans de dessin de maître, c'est jusqu'au 12 mai à la Fondation Custodia, qui a donc édité également ce gros catalogue pour l'occasion. À suivre dans la dispute, Ellsworth Kelly, Théo Hernandez et Rosemary Castoro.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux arts plastiques, ce soir avec Ellsworth Kelly, Fenêtre, exposition présentée au Centre Pompidou, dans un commissariat de Jean-Pierre Criqui, assisté d'Annalisa Rimodo. Kelly, l'un des plus grands peintres américains abstraits, mort en 2015, a vécu à Paris entre 1948 et 1954. C'est à cette époque qu'il trouve, on va en parler, sa propre grammaire visuelle et qu'il réalise une série de 6 fenêtres exceptionnellement réunies pour cette exposition, accompagnée, on va en parler, d'un ensemble de peintures, dessins, esquisses, photographies, évidemment en écho à ces fenêtres. Ellsworth Kelly, alors ce nom est familier ou pas de nos auditeurs et auditrices, mais justement cette exposition peut permettre de dire en quoi il a marqué d'ores et déjà l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, de la représentation dans cette deuxième moitié du XXe siècle et ce début du XXIe, puisque certes la première fenêtre présentée dans l'exposition date de 1949, mais il y a un grand bond temporel, on en parlera peut-être, parce que on voit aussi, moi ça m'a beaucoup ému en tout cas, le dernier tableau réalisé par Ellsworth Kelly en 2015, juste avant son décès, alors qu'il est plutôt une porte qu'une fenêtre à mon avis, mais ça c'est un débat que nous aurons peut-être. Sarah Ellermeyer.
Oui, comme vous l'avez dit, cette exposition, elle revient sur une période qui est cruciale dans le parcours de Ellsworth Kelly, donc un peintre et sculpteur américain abstrait, puisque c'est une période au cours de laquelle il a vécu à Paris, de 1948 à 1954, et au cours de laquelle, eh bien, il a élaboré son vocabulaire abstrait et ses méthodes de travail auxquelles il est resté fidèle toute sa vie. Et surtout, cette période où il se distingue radicalement, en fait, des deux tendances majeures de son époque, à savoir d'un côté l'expressionnisme abstrait, dont il rejette la gestualité puis l'expression de l'intériorité. Et de l'autre, il y a l'art minimal, dont il est à la fois très proche, hein, notamment parce que pour ses formes géométriques, avec des lignes tranchantes et des couleurs épurées, mais néanmoins dont il est très éloigné du fait qu'il a toujours voulu maintenir un lien très fort à l'observation et à la transposition d'éléments issus de la réalité. Donc l'exposition, elle est assez petite, mais tout à fait efficace. Hein. Donc c'est une grande salle, hein, divisée en deux par une simèse, et elle réunit effectivement 6 toiles de cette période qui sont nommées window, donc fenêtre, plus d'autres toiles, je crois environ 7, qui sont plus tardives, et la dernière qu'il ait réalisée en 2015, et qui sont quasiment systématiquement accompagnées des dessins, des croquis, et des photos qui ont précédé leur élaboration. Et donc ce qu'on voit à travers cette série de tableaux, c'est la façon dont Kelly finalement épure et transpose des fragments de réalité, en l'occurrence ici des fenêtres, pour n'en retenir que la structure, les surfaces et les volumes. Donc ce qui donne lieu ici à des tableaux qui sont pour la plupart, mais pas tous, en noir et blanc, parfois composés de plusieurs panneaux qui sont soit juxtaposés les uns à côté des autres ou superposés les uns sur les autres, et qui sont divisés dans la, sur leur surface par des lignes qui reprennent en fait la structure en bois ou en métal des fenêtres en question. Donc il s'agit en fait en quelque sorte ici, comme on peut le voir à travers ce processus d'abstraction, eh bien d'oublier un peu l'identité des choses et des objets, c'est-à-dire les noms qui permettent de les désigner, au profit de leur dimension perceptible et sensible, que l'artiste traduit par des formes donc abstraites et à la fois plus nues et plus intenses. Et c'est ce qui lui faisait dire d'ailleurs que son art ne relevait pas d'une sorte d'already made et non pas de ready made à la Marcel Duchamp. C'est-à-dire non pas dans le déplacement d'un objet dans l'espace de la galerie ou du musée, mais dans la transposition et la traduction de formes et d'objets issus du monde réel. C'est-à-dire que les objets ne l'intéressent pas en tant que produits, mais finalement pour la configuration formelle qu'ils recèlent et qu'il s'agit d'extraire. Quelque sorte.
Parce que c'est vrai que ce qu'on voit, alors si on prend la première des fenêtres, on pourrait se dire qu'il y a un fond blanc, il y a une composition géométrique noire, qui, une sorte de presque de croix de Lorraine, mais qui n'aurait pas les proportions d'une croix de Lorraine, parce qu'on a vraiment trois traits horizontaux et un grand trait vertical, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Dans d'autres de ces fenêtres, parce qu'elles auront d'autres sources, celle-ci c'est la fenêtre, je pense, de l'hôtel de Bourgogne où il habitait, cette première fenêtre. Ensuite, il y aura une fenêtre, le modèle, ce sera une fenêtre du musée d'art moderne de la ville de Paris. Il y en aura une autre d'un immeuble du Corbusier, non? Oui. Lequel ?
Le pavillon suisse.
Le pavillon suisse de la Cité internationale, c'est ça. Et même avec les câbles électriques aussi, les ombres qui jouent, qui passent derrière les fenêtres. Donc, mais à chaque fois, on a un choix de traits, de configuration de ces différentes fenêtres, laissées alors à la discrétion, mais très élaborées d'Elsworth Skelly. J'essaie de donner quelques images un peu... difficilement, pardon. Ingrid Duquegan.
Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une vraie leçon d'histoire de l'art qui se concentre sur une espèce de chronophotographie d'un instant, d'un point de bascule qui est déplié dans l'espace à travers toutes les conséquences qu'il va avoir. Donc, c'est vrai qu'on voit des œuvres assez similaires, hein, puisqu'il s'agit de fenêtres, mais qui sont
déclinées. Pleines de variations.
Bien sûr, qui sont déclinées en photographie. On connaît très peu Elsworth Skelly photographe. Qui sont déclinés en toile monochrome ou en noir et blanc, mais également des petites œuvres comme ça sur enveloppe ou un tracé avec un geste de couture où au final il délimite le motif avec une ficelle sur un châssis blanc. Donc on a une espèce d'épure qui pourrait se rapprocher d'un geste de réduction comme ça assez phénoménologique. Mais qui au final est déplié de manière très sensible et où on voit vraiment ce moment de révélation qu'il a eu, qu'il explique d'ailleurs dans ses notes qui sont reproduites dans le catalogue qui est très richement documenté, où il explique en fait qu'il était en France en résidence et il se promène au musée du Louvre, au musée national d'art moderne et un jour il se rend compte qu'au final ça va être les fenêtres qui sont entre les tableaux qui l'intéressent plus que les tableaux eux-mêmes. Donc le fait qu'ils choisissent la fenêtre, c'est évidemment aussi au regard de l'histoire de l'art un geste très symbolique, puisque on connaît la fameuse citation d'Alberti qui fait du tableau une fenêtre. Sauf que Elsworth Skelly va pas se concentrer sur la représentation, mais vraiment sur l'instrument de vision que serait la fenêtre. Et en montrant ces fenêtres oblitérées qui sont opaques, en se concentrant sur la structure, il va au final entériner ce geste de la modernité qui sera de dire que le média et l'instrument de vision au final est beaucoup plus important dans la constitution de la pensée que ce qui pourrait traduire. Donc on a vraiment un moment fondamental tant du niveau de l'histoire de l'art que aussi de la théorie des médias. On pense à des gens comme Friedrich Kittler hein, qui vont écrire à peu près au même moment dans les années 60 et qui vont dire en fait que la perception est toujours incarnée, que ça soit par une fenêtre ou que ça soit par un appareil photo, une machine à écrire ou un gramophone, qui est le titre de cet ouvrage de Kittler qui s'appelle Film, gramophone et machine à écrire.
Frédéric Bonnet, premier regard sur cette exposition des fenêtres d'Elsworth Skelly au Centre Pompidou.
Si je voulais être gentiment trivial, je dirais que cette exposition est un petit bijou. Elle est ciselée à la perfection. Ouais. Et oui, il faut absolument aller voir cette exposition parce que elle est d'une taille très très modeste et en même temps elle est d'une richesse que je trouve exceptionnelle et que peu d'expositions arrivent, je trouve, à montrer l'audace, l'efficacité, la perspicacité, la pertinence d'un artiste, il est vrai, essentiel de l'histoire de l'art du XXe siècle, mais dans un espace aussi réduit. Donc, moi, je dis vraiment bravo Jean-Pierre Criqui, parce que en plus de montrer, et là je suis parfaitement d'accord avec Sarah, que le qualificatif de minimal qu'on a collé à tout bout de champ sur Kelly, donc, j'ai toujours pensé qu'il était totalement inapproprié. Là, on en a la démonstration absolument flagrante, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'objet, c'est pas la surface plane, c'est pas le monochrome en tant que tel. C'est vraiment, comme vous l'avez dit toutes les deux, de récupérer des fragments d'environnement. Et d'ailleurs, il y a dans le catalogue cette citation de Kelly qui en 69 disait: partout où je regardais, ce que je voyais devenait quelque chose à faire, et à faire exactement tel quel, sans aucun ajout. Mmh. Et ce qui est assez remarquable, parce que du coup, ça veut dire que l'artiste peintre ou l'artiste sculpteur se libère totalement de la nécessité de composer son tableau. Et ça, c'est déjà en soi un geste qui est assez remarquable. Et pour revenir, comme vous le disiez, Ingrid, sur la question de la fenêtre, c'est aussi quelque chose de remarquable, parce que ce travail sur les fenêtres consiste en une redéfinition du tableau conçu comme une fenêtre ouverte sur le monde. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'ouvrir, mais on va la fermer, parce que ces œuvres, elles sont parfaitement opaques. Ce sont des surfaces qui sont lisses, qui sont planes, qui sont fermées, et donc tout ça est assez remarquable. Ce qu'il faut ajouter aussi, et c'est en ça que l'exposition est et je trouve totalement formidable, c'est que on savait que Kelly était un bon dessinateur. Je savais, pour avoir vu des œuvres ci et là, qu'il était un bon photographe, et là l'exposition en apporte la démonstration éclatante, parce que cette obsession du motif de la fenêtre qui le poursuit toute sa vie, elle se retrouve dans des photographies notamment de la fin des années 70 qui sont absolument magnifique. Il y a une série faite à Belle-Île en 1977. C'est des photos de façades, donc de fenêtres sur les façades, à différents moments de la journée, avec donc les ombres qui vont bouger, et ça devient presque de la peinture. C'est absolument prodigieux.
Alors que lui, le Swarovski, ne tenait pas du tout à ce qu'on montre particulièrement ses photographies. C'était vraiment on parlait de la pratique du dessin pour alimenter une œuvre. Là, il y a une pratique de la photographie, mais quand on a un œil, que voulez-vous, comme celui de Swarovski, même une photo de documentaire pour lui prend toute sa valeur. Et il faut dire aussi que le mari d'El Swarovski a vraiment aussi cet amour de la France et de Paris, qui fait que les expositions, on a quelques expositions formidables liées à la générosité, soit des prêts, soit des dons, parce qu'El Swarovski a fait beaucoup de dons au musée français. Il en a fait aussi à l'NHA avec cette série de dessins qu'on a pu voir l'été dernier, aussi à la collection Lambert en Avignon. Il y a une histoire d'amour entre la France et El Swarovski qui est magnifiquement portée aussi par son mari. Sarah Hélémaillère.
Oui, je reviendrai sur ce que vous avez dit à propos de la notion de fenêtre, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans cette exposition, c'est que Kelly a un usage extrêmement intelligent de ce terme-là, puisqu'effectivement ça renvoie en fait au principe de la représentation classique et renaissante, selon laquelle le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde. En fait, c'est une théorie de la transparence, selon laquelle les moyens matériels de la peinture, c'est-à-dire la touche, la surface et le châssis, doivent se faire oublier au profit de ce qui est représenté. Alors précisément, face au tableau de Kelly, on bute sur leur matérialité, sur leurs conditions d'objet, avec leur surface, leur châssis, leur volume, ce qui en fait d'ailleurs des tableaux-objets ou des tableaux-reliefs, c'est comme ça qu'il en parle.
Il y a même une fenêtre-sculpture aussi dans l'exposition dont on n'a pas parlé.
Et d'ailleurs, ces tableaux-objets, tableaux-reliefs se décollent légèrement du mur, généralement, ce qui en fait des objets autonomes et en même temps en interaction avec l'espace dans lequel ils se trouvent, du fait qu'ils soient sans cadre. Et donc c'est là où on voit que c'est une véritable réflexion en fait sur ce qu'est l'abstraction, parce que si les tableaux de Kelly ne représentent pas directement les apparences du monde extérieur, néanmoins ils ne sont pas du tout opposés ou coupés du réel, puisqu'au contraire ils maintiennent un lien très fort avec l'observation de la nature. Donc en fait s'ils sont reliés au réel, c'est pas sur le mode de la représentation ou de la figuration, mais c'est sur le mode de la transposition, de la présentation de ces dimensions sensibles et perceptibles. En fait ce sont des dimensions sensibles et abstraites que l'artiste justement traduit dans un vocabulaire lui-même abstrait.
Un mot encore, Ingrid de Kegan.
Oui, le catalogue aussi est extrêmement bien fait et très documenté.
Cahiers d'art et Centre Pompidou.
Voilà, on a un essai d'Yves Alain Bois qui s'occupe également de son catalogue raisonné. Et donc, pour aller un peu plus loin, on voit aussi qu'il appliquait cette démarche non seulement à la fenêtre, mais tout ce qu'il pouvait trouver comme ça dans une démarche d'arpenteur qui se trouvait sur son chemin. C'est-à-dire également des panneaux de signalisation, des lignes de cartes routières, des bouts de papier dans la rue. Et donc vraiment, cette méthode de mise entre parenthèses du fourmillement du monde, il l'appliquait vraiment à tout ce qui se trouvait devant lui, quoi. Donc c'est une vraie entreprise comme ça de géographe, phénoménologue qui arpente le monde.
Un post-scriptum de Sarah Lermeyer.
Oui, une petite chose, c'est ce qui est étonnant avec Ellsworth Kelly, c'est de voir qu'en fait, il est beaucoup plus proche d'artistes qui sont pas de sa génération, notamment par exemple Brancusi, qu'il a rencontré à Paris lors de son séjour, et dont il partage en fait l'épure des formes réelles pour en retenir en fait l'essence matérielle et visuelle. Donc c'est ça qui je trouve assez étonnant chez lui.
Et dernier mot, Frédéric Bonnet, sur cette exposition.
Oui, non, ce qui est remarquable à voir également, c'est la persistance et la permanence à la fois des intérêts et des formes. Parce que le tableau de la fenêtre du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est de 1949, il y en a une photographie qui a été faite en 1967. Même chose pour le window numéro 6, donc le pavillon suisse. Le tableau est de 1950 et la photo est de 67 également. Et là où Jean-Pierre Cricq qui a remarquablement joué son accrochage, c'est avec la Cimes qui est au centre, qui présente justement la fenêtre du musée d'art moderne de 49. Et quand on passe derrière, on a ce dernier tableau que vous évoquiez de 2015, qui n'est pas à proprement parler une fenêtre, mais on voit que c'est une œuvre sœur, c'est une petite sœur dans la chronologie, mais une grande sœur par la taille. Et vraiment, ce recto verso est un magnifique accrochage.
Bon, j'espère bien qu'on vous aura donné envie d'aller découvrir Ellsworth Kelly Fenêtre. C'est jusqu'au 27 mai au Centre Pompidou. Et donc le catalogue, rappelons-le, est édité par les éditions des Cahiers d'Art et le Centre Pompidou. C'est l'heure du coup de cœur de Sarah Hiller-Meyer pour l'exposition de Rosemary Castoro, Wherein Lies the Space. Wherein Lies the Space. Je ne détache pas tous les mots, ça ne va pas. C'est à la galerie Tadeusz Ropak. De quoi s'agit-il, Sarah ?
Eh bien, de Rosemary Castoro, qui est donc pour resituer une artiste qui est née en 1939 et décédée en 2015, et qui a aussi bien pratiqué la peinture, la sculpture, la poésie, la performance, et qui a évolué dans le milieu de l'art minimal et de l'art conceptuel dans les années 60 et 70, mais qui, bien évidemment, a beaucoup moins été exposée que ses homologues et amis masculins, comme par exemple Laurence Wiener, Sol Lewitt ou Karl André, avec qui d'ailleurs elle a été mariée pendant quelques années, il me semble. Donc elle a été en grande partie oubliée alors que c'était une artiste très essentielle de ses avant-gardes, et surtout parce qu'elle a contribué à inventer en fait une alternative à l'art minimal qui dominait alors l'époque. Donc en fait sa pratique elle relève d'une sorte d'abstraction excentrique. C'est un terme qui a été inventé par Lucy Lippard, une critique d'art américaine en 1966, et qui désigne eh bien des pratiques hybrides entre peinture et sculpture qui subvertissent l'art minimal sur son propre terrain. C'est-à-dire qu'elles ont, ces artistes-là en reprennent en fait les structures formelles, la sérialité, mais en y introduisant en fait, en y réinjectant ce qui avait été par contre rejeté par les artistes du minimalisme, à savoir une relation au corps, aux affects, aux émotions et même parfois à la sexualité. Donc ça donne lieu à des formes qui sont à la fois très structurées et sensuelles, irrationnelles et rationnelles, et souvent entre figuration et abstraction. Donc concrètement, l'exposition elle permet de revenir sur l'ensemble du parcours de Rosemary Castoro. avec des peintures des années 60 qui relèvent d'une forme d'abstraction minimaliste, où on voit notamment des formes rectangulaires et puis des lignes en diagonale qui se répètent sur des fonds monochromes. On voit aussi des photos de ses premières performances au début des années 70, des poésies concrètes sur des feuilles de papier quadrillées. Et puis les sculptures des années 70 et 80, où là, elle embarque vraiment le minimalisme sur une voie surréaliste. Donc ça donne lieu par exemple à une sculpture qui s'appelle Land of Lashes, donc ça veut dire terre de cils, et qui consiste en 8 petites sculptures posées au sol et alignées les unes derrière les autres. Elles sont en résine et en fibre de verre peint en noir. Et on dirait un peu des cils ou des araignées aux pattes rugueuses qui seraient en train de courir les unes derrière les autres. Dans le même registre, il y a une autre sculpture qui s'appelle Beaver Strap et qui consiste cette fois-ci en plusieurs morceaux de bois alignés, enfin verticaux, avec des formes sinueuses qui évoquent un peu des tentacules de pieuvres et qui sont alignés sur le périmètre d'un carré de manière à constituer une sorte de piège érotique. En tout cas, c'est comme ça que le concevait l'artiste. Et ce que je trouve remarquable dans ce travail, c'est de voir à quel point il reste pertinent, il est pertinent aujourd'hui, et à quel point il rentre en écho avec un certain nombre d'artistes contemporains qui justement recourent également à des formes entre, à la fois organique et industriel, à la fois rationnel et irrationnel, de manière, en quelque sorte, à déjouer un peu les catégories et les binarismes.
C'est l'exposition Rosemary Castoro qui s'intitule « Wherein Lies the Space » à découvrir jusqu'au 30 mars à la galerie Tadeusz Ropak, son site parisien, rue de Bellem, dans le 3e arrondissement.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Dernière exposition à notre sommaire ce soir, celle consacrée à Théo Hernandez sous le titre « Éclater les apparences » à la Villa Vassiliev, 21 avenue du Maine, à Paris. Pour cette exposition, la Villa Vassiliev Pernod Ricard Fellowship, hein, il faut bien que l'argent vienne à l'art, c'est associé au Centre Pompidou et à l'Institut culturel mexicain de Paris qui présenteront également des expositions autour de Théo Hernandez ce printemps. À la Villa Vassiliev, c'est un commissariat d'Andrea Ansira qui nous permet de découvrir une sélection de films de l'artiste mexicain né en 1939 qui s'est, selon ses termes, auto-imposé un exil en France où il a notamment développé une pratique de cinéma expérimental au sein de la communauté homosexuelle, celle de la contre-culture parisienne de la fin des années 60, années 70. On va en parler, la dimension autobiographique de ces films est évidemment très importante. Théo Hernandez est mort en 1992, victime du sida. Liscombe qui choisit... Non, c'est même pas elle, d'ailleurs, c'est Alexandre Fougeron, avant qu'il ne prenne cette semaine de congé. Donc la semaine prochaine, on aura les choix de Liscombe dans la dispute art plastique. Bon, bah ça c'est de la cuisine. Revenons à Théo Hernandez, parce que je ne peux pas dire non plus que ce soit l'artiste le plus connu dans notre pays, alors que, me semble-t-il, il y a beaucoup de raisons de s'y intéresser. Quelques-unes vont être données ici, d'abord par Ingrid Luquegade.
Oui, alors on découvre effectivement un artiste et un cinéaste que moi je ne connaissais pas, qui est d'origine mexicaine et qui s'installe dans les années 60 à Paris, en 66. À partir de 68, il commence à réaliser des films en Super 8, qui, plutôt qu'un sujet, traque en réalité un périple qui va mener à travers plusieurs villes, qu'il s'agisse de Londres, Paris, du Maroc ou de Copenhague. On est ici face à une matière foisonnante, puisque c'est quelqu'un qui faisait des films essentiellement donc pour documenter son périple, mais son périple qui était à la fois une quête de lui-même, donc qui essayait justement à la fois de se trouver et de se transformer à travers cette matière filmique qu'il voulait vraiment autonomiser du réel. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est sans doute marqué par le situationnisme, mais qui s'ancre surtout dans une recherche extrêmement personnelle, où il se révèle à la fois chaman et jaguar. Donc on est face à un dépliage d'une matière archivique qui est extrêmement riche et qu'on sent qui a pas du tout encore été exploité. Donc c'est une exposition qui va vraiment se livrer au dépliage de cette recherche à travers finalement pas tant de films que ça, mais surtout des vitrines où on met vraiment en avant sa présence en France, puisque son fonds maintenant est détenu par les collections du Centre Pompidou, qu'il a bénéficié d'une rétrospective au Centre Pompidou également en 84, et qu'il était aussi présent à la Cinémathèque française en 79. C'est aussi une exposition où on a beaucoup de cartes et de cartographies qui vont essayer de déplier un peu ces déplacements qui étaient moins physiques qu'existentiels, puisque lui-même allait dire qu'il était en auto-exil permanent, comme on vient de le souligner. Donc on a par exemple une carte qui est assez hallucinatoire, puisqu'on va nous parler de ses pérégrinations, de ses créations nommées araignées, de ses rencontres qu'on appelle jaguar et de zoom. Donc on est comme ça face à un foisonnement qui tient plus du rhizome ou du mangrove que d'une croissance verticale, où on est vraiment dans une espèce d'intimité, comme ça, avec des notes de partout, un fouillis de matières, de films, qui sont montrés de toutes les manières possibles et inimaginables sur des écrans de télévision, qui sont projetés en haut, en bas, dans tous les coins, et donc qui laissent un peu le spectateur face à l'approche vraiment intuitive et intime qu'il pourrait avoir de ce cinéaste qu'il ne connaît pas. Donc on n'est pas du tout dans une rétrospective, mais dans une exposition qui se pose plutôt la question de comment exposer cette matière-là que lui-même n'aurait pas forcément voulu voir sous la forme d'une exposition.
Oui, c'est pas la même type de présentation que la Fondation Custodia, évidemment, mais là on entre vraiment dans un univers, à la fois dans une personnalité, à la fois dans une géographie, parce que vous l'avez dit, les périples sont importants, réels ou fantasmés. Frédéric Bonnet, pour poursuivre sur Théo Hernandez.
Il faut vraiment aller voir cette exposition pour plusieurs raisons, et pour moi, les deux principales, c'est que on a affaire à un cinéma des sensations et à un cinéma de la déconstruction, et que porté par un cinéaste qui a travaillé pour l'essentiel dans les années 80, ce qui est à voir ici, il y a quand même des choses de la fin des années 70. Ça n'est pas neuf. Quand je parle de sensations, il y a vraiment cette obsession là qu'on voit, je trouve, sur tous les écrans, de donner une plasticité au film, notamment par le jeu de la lumière et par le jeu du mouvement. Il avait un mode opératoire pour filmer très en mouvement, hein, en se déplaçant vraiment avec la caméra, ce qui fait que l'objet film n'est jamais enfermé dans une acception unique, qu'elle soit documentaire, narrative, fictionnelle, ce que vous voulez. Lui-même disait, le film est une énigme. Alors justement, il faut l'écouter parler. Théo Hernandez, il y a plusieurs de ses films dans lesquels il parle sans se mettre d'ailleurs lui-même à l'écran, et c'est toujours très précis et formidable à écouter, parce que quand il dit que le film est une énigme, ben finalement on en revient à l'abstraction du motif et à sa disparition, et une disparition qui participe, je disais, la déconstruction, la déconstruction de l'image. C'est aussi une manière de dénier la linéarité du récit, et là encore je vais citer Théo Hernandez, quand il dit que le but de l'image est d'arriver à l'espace final du vide, c'est finalement un peu l'antithèse du film lui-même. Et je trouve ça assez remarquable de le poser en ces termes-là, et visuellement, parce que donc on a un cinéma qui est habité par de la matière, littéralement, qui est habité par des corps aussi, son corps à lui, le corps des autres, mais jamais jamais univoque, il y a jamais de d'univocité du motif oui, je pense que c'est un travail assez essentiel et à aller voir absolument.
Et en plus de l'exposition, moi j'ai cherché sur internet des interviews Théo Hernandez, il y en a pas mal, interviews radio la plupart du temps ou audio en tout cas, et elles sont c'est vrai toujours assez passionnante, même dans un entretien comme ça vif. Sarah Hillermeyer.
Oui, alors je partage pas du tout l'enthousiasme de mes collègues. Regard. Je pense que tout l'enjeu de la Villa Vassiliev, c'est de montrer des artistes qui ont été un peu oubliés et en marge de l'histoire officielle. Et donc c'est tout à son honneur de présenter le travail de Théo Hernandez. Mais il me semble que quand on connaît un peu le cinéma expérimental et en particulier Jonas Mekas, qui est son aîné, c'est un peu difficile de prime abord de voir quelle est sa singularité et son apport et de ne pas le considérer comme un artiste un peu satellite. Pourquoi ? Parce que son cinéma illustre de tous les procédés caractéristiques du cinéma expérimental, hein, qui consiste essentiellement à s'affranchir d'une logique narrative classique, justement, au profit d'une logique plutôt sensorielle, mémorielle et onirique, avec des images qui sont plus ou moins nettes, un montage plus ou moins syncopé, des mouvements de caméra aussi plus ou moins importants, qui peuvent amener même à transformer ce qui est filmé en tâches et en tourbillon de couleurs. Donc on retrouve tous ces procédés chez Théo Hernandez, mais poussé à un tel point que ça devient, je trouve, un peu caricatural, un peu comme si on avait affaire à une sorte de Jonas Mekas épileptique. Hein. C'est comme si finalement s'il alignait les formules caractéristiques du tout de suite identifiables comme des formules du cinéma expérimental, mais en les vidant un peu de leur contenu expressif. Après, vous me direz, il y a d'autres enjeux dans le cinéma de Théo Hernandez. Vous parliez justement de que c'est un cinéma de la sensation et du corps, c'est ce qu'avait dit Dominique Noguez à propos de Théo Hernandez, que c'était un cinéma du corps à plusieurs titres, hein, parce que d'une part c'est un cinéma qui est haptique et tactile, c'est-à-dire qui propose une vision rapprochée, directement au contact des choses, pour entrer un peu dans leur texture, hein, la caméra devient comme une extension de la main qui toucherait, qui caresserait la surface des choses. Et c'est là d'ailleurs, je trouve, où le titre de l'exposition est un peu malvenu, parce que éclater les apparences, ça devrait plutôt être célébrer les apparences, à mon sens. C'est aussi un cinéma du corps, parce que donc justement il filme les vies, les individus et les corps comme des corps à chaque fois. Et puis parce qu'elle met l'accent, c'est un cinéma qui met l'accent, mais comme tout cinéma expérimental, hein, enfin la plupart, sur la matérialité même de l'image et son grain. Aussi parce qu'effectivement il met son corps en mouvement quand il filme, ce qui en fait une sorte de cinéma dense, et finalement de la caméra une extension à nouveau du corps. Et puis parce qu'il filme, et c'est peut-être ça qui m'a paru le plus peut-être crucial dans son travail, il filme à proprement parler des corps, et des corps en particulier masculins, et c'est là où, avec souvent des zooms et des dézooms très rapides, et c'est là où on voit toute la dimension érotique à mon avis de son cinéma, et la pulsion scopique en fait qui le guide, à savoir la façon dont le désir passe chez lui par le regard. D'ailleurs il en parle très clairement dans deux de ses films, hein, où il dit que la caméra est le phallus de la vision, par exemple.
Oui, mais c'est pour ça, j'entends bien vos réserves sur sa pratique cinématographique expérimentale, mais en même temps, moi, ce qui me semble, c'est pour lui un outil, il prend ce vocabulaire, mais pour parler de lui et de sa recherche, Ingrid Lukegan.
Mais moi, je pense effectivement qu'il ne faut pas le prendre dans cette exposition-là, du moins, comme un cinéaste. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'on passe quand même toute la première partie de l'exposition à ne pas voir d'images qui vont arriver dans la seconde partie, mais on nous montre d'abord les vitrines encombrées de choses, les poupées, et le fait qu'on ne doive pas le prendre comme un cinéaste, c'est quelque chose qui revient aussi dans ses écrits.
C'est un grand autoportrait.
Voilà, et lui, il parle vraiment d'une collection qui serait ses notes, ses intuitions, ses carnets, ses feuilles volantes, et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une entreprise comme ça de resubjectivisation et de quête de lui-même à travers les images. Et en cela, moi, j'aurais tendance à le comparer à un autre cinéaste expérimental qui serait Reza Abdo, qui est aussi dans un théâtre des apparences comme ça, qui est plus jeune, mais qui est mort aussi dans les années 90. Et on a peut-être une espèce de préfiguration de l'autodesign et de la conscience de soi par l'image, qui est un truc de la génération Instagram qu'on connaît très bien.
Sarah ?
Oui, non, juste un dernier point. Il se trouve que le récit à la première personne, c'est justement aussi une des caractéristiques du cinéma expérimental et qu'on trouve justement chez Jonas Mekas, qui fait quelque part une autobiographie ou un journal filmé à travers ses différentes productions.
30 secondes pour faire avec Bonnet.
Oui, mais justement, je ne crois pas qu'on puisse parler du travail de Théo Hernandez, pardon, même s'il emploie le jeu de manière très très marquée, comme une autobiographie justement. Et c'est en ça que moi je le trouve intéressant, c'est que il ouvre véritablement le champ, il se met en scène, mais il y a son corps, mais il y a le corps des autres en permanence, et je trouve que c'est un petit peu plus complexe que ça.
Bon, on développera après l'émission dans le couloir et on reviendra sur Théo Hernandez. Il y a d'autres expositions à venir, donc peut-être qu'on en aura l'occasion. En tout cas, pour l'instant, cette exposition Théo Hernandez est à voir jusqu'au 27 avril à la Villa Vassiliev, qui publie pour l'occasion Anatomie de l'image, notes de Théo Hernandez, édité par Andrea Ansira Garcia et Neil Mauricio Andrade. Notez aussi la sortie d'un livre qui revient sur l'histoire de Béton Salon Villa Vassiliev 2003-2018, 15 ans dans le flot de la vie. Et avant de conclure, c'est l'heure du jeu de la dispute. C'est l'heure où Joséphine Dumoulin vient s'asseoir à mes côtés pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Joséphine.
Alors la question était: dans quel film Marthe Keller interprète-t-elle une star déchue à la beauté légendaire? Et la réponse était Fedora.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations, des places de cinéma pour aller voir le film d'animation Funan de Denis Do qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question, Joséphine?
Quel réalisateur franco-cambodgien explore dans ses œuvres la mémoire du génocide des Khmer Rouges?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain, 19h, une dispute consacrée à la littérature avec Raphaël Léris, Elisabeth Philippe et Philippe Chevillier. Nous parlerons du chant des revenants de Jasmine Ward chez Belfond, dans le faisceau des vivants de Valérie Zenati aux éditions de l'Olivier, des carnets de Goliarda Sapienza au tripode et de Hors de soi de Sacha Mariana Salzman chez Grasset.
France Culture, l'esprit d'ouverture.